Philippe de Cholet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Matignon Finance, on va parler avec vous des marchés, des perspectives. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, frappé ou intéressé dans ce qui s'est passé durant l'été ? Alors bien sûr, on peut parler des marchés émergents, mais est-ce qu'il y a des mouvements qui vous ont, vous, que vous avez suivi de près ?
Bah, ce qui est un petit peu quand même surprenant, c'est cette volatilité qui s'inscrit dans celle qu'on connaît depuis déjà quand même quelques mois, ce yo-yo entre 5002 et 5005, qui montre quand même des marchés un peu désorientés, très largement à la remorque de ce qui se passe aux États-Unis, et en particulier des décisions de Donald Trump, alors que sur le fond, l'actualité macroéconomique est plutôt satisfaisante. Les résultats des sociétés ont été quand même de bonne facture au premier semestre, donc il y a un décalage quand même grandissant entre la toile de fond économique d'un côté et puis les tensions géopolitiques de l'autre.
Alors, quand on parle de la Turquie, on a vu l'effet finalement à la fois de la chute de la lire turque rapide et la contagion sur les marchés et les flux qui sont sortis de certains marchés émergents.
Oui, ça en effet. Donc la question des émergents est une question qui se pose avec acuité aujourd'hui. C'est vrai que ceux qui ont joué les émergents depuis le début de l'année dans l'ensemble n'ont pas tellement profité si on regarde un peu les performances des fonds sur cette classe d'actifs. Faut-il par contre considérer que l'ensemble des pays émergents sont dans la même barque? Non, et c'est ce que je dis toujours. Il est toujours un peu abusif de parler des émergents dans leur ensemble. Il y a effectivement eu 3-4 pays, vous les avez cités, la Turquie, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine, qui ont des difficultés, il est vrai. Doit-on pour autant étendre ces difficultés à l'ensemble des pays qu'on appelle émergents? Je ne crois pas. Il y a quand même, la croissance est encore là, et je n'ai pas de raison de penser, si vous voulez, que le retrait des flux de capitaux de ces pays du fait de l'appréciation du dollar et surtout de la hausse des taux aux États-Unis aille crescendo. Je ne le crois pas.
Alors, quand on regarde un peu les marchés et les performances de ces marchés financiers, on a du côté des États-Unis clairement, on pourrait dire, alors je ne sais pas, certains disent que ce n'est pas une bulle, mais en tout cas, la partie technologique, des valeurs technologiques, les fameux GAFA avec le poids important par rapport aux indices, donc ça c'est les États-Unis. Et puis en Europe, on a pareil, certains secteurs, ce n'est pas la tech, ce serait plutôt le luxe par exemple. Donc il y a eu une concentration quand même des investissements, de la part des investisseurs sur certains titres.
Ah ben c'est très clair. Enfin, ceux qui ont joué le luxe ou alors l'aéronautique, je pense à Airbus en particulier, depuis le début de l'année, en Europe et en France en particulier, s'en sont très bien tirés. Enfin, rares sont les secteurs quand même qui ont échappé à la baisse. Et pour ce qui est du CAC, c'est vrai que c'est un des rares indices européens qui est plutôt pas trop mal résisté jusqu'à maintenant, du fait d'ailleurs de cette absence de valeurs technologiques de premier plan. Nous avons des banques, mais les banques, elles, restent encore sous pression, malheureusement, et je ne vois pas de raison pour lesquelles les choses s'inverseraient, tant au moins que l'incertitude sur l'Italie ne sera pas levée, on devrait être prochainement fixé. Donc quand même, dans l'ensemble, les secteurs, les poids lourds des indices européens ont plutôt été impactés, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où vous avez raison de le dire, la technologie a quand même permis aux indices, dans leur ensemble, de continuer à progresser.
Quand on parle des taux, les banques centrales donc, sont dans deux cycles. La Réserve fédérale américaine, elle est en train de remonter ses taux, même si parfois on a des tweets de Donald Trump qui voudraient que ça aille un peu moins vite. De l'autre côté, en Europe, on n'en est même pas au début. Donc cette divergence-là, on la connaît et j'ai posé la question à plusieurs interlocuteurs. Les boursiers savent, se rappellent de certains souvenirs avec la Bundesbank, la Bouba de l'époque. Quand il y a cette divergence, ce n'était pas forcément satisfaisant. Aujourd'hui, on a l'impression que ça inquiète personne.
Non, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une certaine décorrélation entre la progression des taux de part et d'autre, les politiques monétaires plus largement, qui pour le moment, effectivement, n'est pas problématique. Parce qu'on part d'une situation où les taux sont quand même extrêmement bas, il ne faut quand même jamais l'oublier. Je ne suis pas sûr que s'il doit y avoir une inflexion de la croissance en Europe, l'année prochaine, la BCE puisse continuer à clamer qu'elle remontera ses taux en 2019, ce qui serait paradoxalement plutôt favorable au marché actions européen. C'est pour ça que je reste quand même malgré tout assez confiant sur leur capacité de rebond dans les mois qui viennent.
Alors il y a aussi, on est à quelques jours de l'anniversaire de la faillite de Lehman Brothers. Vous avez connu aussi cette période 2007-2008, 2018. Quel bilan on peut en tirer sur le plan financier? On a l'impression aujourd'hui que tous les voyants sont au vert ou presque. On parlait des États-Unis, les indices au plus haut. Tout va bien. Quels sont les risques? On parle parfois de la dette, mais est-ce qu'il y a des risques qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'il y a cette politique monétaire non conventionnelle qui a été mise en place?
Écoutez, oui, certains parlent d'une persistance des risques systémiques. Je ne les exclus pas totalement, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal diminué. D'abord parce que vous avez eu quand même tout un effort de réglementation bancaire qui force les banques à renforcer leurs fonds propres à prendre un certain nombre de mesures prudentielles, parce que la commercialisation de produits à haut risque, tels les subprimes, est quand même très largement, heureusement, derrière nous.
Alors, il peut y en avoir d'autres.
Il peut y en avoir d'autres, c'est vrai. Mais enfin, dans l'état actuel des choses, le seul risque qui aurait pu éventuellement peut-être devenir systémique s'il n'avait pas été tout de suite cadré, c'était celui des crypto-monnaies. Ben pour le moment, elles sont en pleine déconfiture, je ne crois pas. Ça a plus été, à mon avis, un effet d'engouement passager que quelque chose de durable. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des banques européennes, elles sont plutôt, je trouve, en meilleure posture qu'elles ne le furent au moment de la crise de 2007-2008.
Alors, si on a tout de même cette hausse des taux américaine, voilà, les États sont endettés. Il y a aussi certains acteurs privés qui ont profité de ces taux, cet argent bon marché pour aller s'endetter massivement. Ça va pas devenir à un moment donné un sujet crucial, savoir comment parce que la dette aujourd'hui peut-être coûte pas grand-chose, mais elle va coûter un peu et un peu plus.
Non, mais ça, c'est clair que là, vous mettez le doigt sur le point sensible, notamment de la situation de pays comme la France ou l'Italie, hein. On a des taux d'endettement, c'est sûr, qui nous exposent tout particulièrement à une remontée des taux si elle était surtout brutale. C'est pas quand même le scénario que je retiens, hein, je vous l'ai dit, mais c'est clair qu'il faudra quand même un moment ou un autre s'atteler à la réduction de la dépense publique, ce que pour l'instant, les gouvernements européens, et je pense à l'Italie et à la France en particulier, n'ont pas commencé à faire.
Alors l'investisseur qui est déjà dans le marché, il a pu bénéficier de, je dirais, on parlait des indices de cette progression notamment sur les actifs risqués. L'investisseur qui arrive aujourd'hui, en termes de répartition, de choix, est-ce qu'il est obligé, forcé, comme le veulent les banquiers centraux, d'aller sur des actifs risqués?
Non, il n'est en rien forcé d'obliger d'aller sur des actifs risqués. Tout dépend d'abord de son appétence au risque. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, à un moment où un peu où les investisseurs ne savent plus très bien à quel saint se vouer, j'aurais tendance à considérer quand même que la dose de risque que l'on met dans un portefeuille doit être quand même mesurée. Voilà. Il y a quand même heureusement des produits qui sont assez largement décorrélés des marchés actions. On les oublie souvent, mais la pierre papier reste encore peut-être un peu moins attractive qu'elle ne le fut, mais enfin, elle continue à délivrer des rendements supérieurs à celui du contrat en euros des compagnies d'assurance. Donc il y a quand même encore cette vaste gamme de produits auxquels parfois les particuliers, les épargnants ne pensent pas suffisamment, en particulier dans le cas de l'assurance vie, hein, parce qu'il est plus intéressant de les souscrire dans un contrat d'assurance vie que sur un compte titre. Donc vous avez quand même d'autres produits qui s'offrent à vous et qui vous exposent moins aux aléas des marchés actions.
Voilà, parce que compte tenu de cette progression qu'on a rappelée, c'est vrai que si on pense au marché américain, on se dit qu'il y aura bien une correction à jour. Les marchés, historiquement, il y en a toujours eu.
Oui, toujours. Alors, elle est très liée sans doute à la fin du cycle, hein, le fameux cycle économique dont on parle jour et nuit
Voilà, qui se
dans les salles de
prolonge.
marché, qui se prolonge. Est-ce qu'on est véritablement à la fin du cycle de la croissance américaine? En fait, personne n'en sait rien. Bon, c'est vrai, les arbres ne montent pas au ciel. Lorsqu'on arrive à un taux d'emploi aussi important aux États-Unis, avec des pressions inflationnistes qui quand même commencent à se manifester, à un moment ou un autre, il y a effectivement une inversion du cycle. C'est vrai. Est-ce qu'elle sera dans 12, dans 15, dans 30 mois? Personne n'en sait rien. Mais dans l'état actuel des choses, il y a plus de raisons d'anticiper, à mon avis, une poursuite de la hausse des marchés aux États-Unis, portée par une croissance quand même très forte, n'oublions pas, 4%, que d'anticiper une correction brutale.
Merci Philippe de Cholet.